France Inter.
Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Moins d'attentes pour des remboursements équivalents avec le tiers payant en prime. La Belgique, nouveau paradis médical des Français habitant proche de la frontière. Il constitue jusqu'à 20% de la patientèle de certains spécialistes belges. Nous serons à Moucron, le plus grand hôpital de Gaza, à nouveau au cœur des combats entre Israël et le Hamas ce matin. Mais en Cisjordanie aussi, les structures de soins sont prises pour cible. Reportage à Jenin. Dans ce journal aussi, Bruno Le Maire qui façonne son image de père la rigueur, des usines de surtri pour vider nos poubelles jaunes qui débordent et une overdose fromagère à Saint-Étienne.
Et au micro de Sonia De Villers, aujourd'hui Laurence Bertrand d'Orléac, la présidente de la FNSP, la Fondation Nationale des Sciences Politiques.
France Inter.
C'est un nouveau symptôme, Alexis, de la crise du système de santé français.
Fatigués d'attendre des mois pour un rendez-vous chez le dermatologue ou l'ophtalmo, des Français vont désormais se faire soigner en Belgique. À l'hôpital de Moucron, tout près de la frontière, près d'un patient sur cinq désormais vient de France. Une proportion en augmentation alors que les délais d'attente ont presque doublé en 5 ans dans l'Hexagone, selon la Fédération hospitalière française. Aussi car des accords bilatéraux facilitent grandement la prise en charge de ces habitants frontaliers. C'est le reportage de Stéphane Barbereau, France Bleu Nord.
Dans cette salle d'attente, la moitié des patients sont français. Pascal est venu accompagner sa femme à l'hôpital de Moucron pour un rendez-vous chez un dermatologue. Ce couple de Vervic Sud, juste à la frontière côté français, vient depuis 3 ans ici.
Parce que les temps d'attente en Belgique sont plus courts qu'en France. On a des rendez-vous en ORL dans 4 mois. En France, c'est plus long.
Autre couple de retraités venus de la métropole lilloise, Patrick et Françoise, qui patientent pour leur premier rendez-vous en dermatologie.
Les temps de prise de rendez-vous en France, vous comptez 6 mois pour le dermato. Ici, je pense qu'en 3 mois, on a eu le rendez-vous. On est rentré. C'est vrai que le système des couloirs, tout est bien indiqué. Vraiment, c'est le top ici.
On se dirige facilement. C'est bien fait.
Même le volet administratif est simple, malgré la frontière. Magali Brévière est chef du service facturation à l'hôpital de Moucron.
Le patient peut venir chez nous simplement en présentant sa carte vitale. On fera le tiers payant et donc le patient n'aura à sa charge que les suppléments ou les frais d'hôtellerie en cas d'hospitalisation.
Une simplicité administrative rendue possible grâce à une convention signée entre les autorités belges et les caisses d'assurance maladie des Flandres, de Roubaix-Tourcoing et Lille-Douai, en sachant que les règles de prise en charge dépendent du lieu où vous consultez. Si c'est en Belgique, c'est donc le tarif belge avec les règles de remboursement belge.
Et je citais à l'instant la Fédération hospitalière de France. Dans une étude relayée ce matin par France Info, elle annonce que les hôpitaux ont globalement retrouvé, 4 ans après le Covid, leur niveau d'activité d'avant la crise sanitaire. Globalement, car pour certaines spécialités, le déficit d'activité perdure, moins 13% en cardiologie, moins 12% en rhumatologie. Au total, ce sont ainsi 3,5 millions de séjours hospitaliers qui n'ont pas été réalisés par rapport aux projections, ce que la FHF qualifie de dette de santé publique, avec des conséquences graves pour la détection de certains cancers ou la prise en charge du diabète, par exemple. Santé et dépenses de la sécurité sociale dans le viseur du gouvernement qui cherche 20 milliards d'euros d'économies pour l'année prochaine. Dans un livre à paraître cette semaine, Bruno Le Maire appelle à passer d'un état-providence à un état-protecteur. Le ministre de l'économie, qui sera notre invité à 8h20, plaide à nouveau pour plus de rigueur budgétaire dans ce qui ressemble, Marie Mollet, à un programme politique, voire électoral.
Depuis plusieurs mois, lorsque Bruno Le Maire apparaît à l'écran, tremblait.
Quand je dis que l'échec c'est fini.
C'est pour refermer le porte-monnaie.
Nous ferons une économie d'1 milliard d'euros sur ma prime rénov'. La facture d'électricité va augmenter de 9,8% au 1er février. Il n'y a plus d'argent, on n'a pas les moyens de faire un chèque alimentaire. Quand on gagne moins, on dépense moins.
Des mauvaises nouvelles par brassée que lui laissent bien volontiers Matignon et l'Élysée. Bruno fait sacrifice de son corps, ironise un très haut gradé de la majorité. Car le patron de Bercy n'a nul besoin de se forcer. Lui travaille désormais une nouvelle image, celle de lanceur d'alerte des comptes publics. Il sort un nouveau livre, une tournée médiatique, pour critiquer l'état-providence et le mirage, dit-il, de la gratuité pour tous. Une offensive politique, donc, 2027 n'est plus si loin. Et puis, aurait-il un bilan à faire oublier? Lui qui a d'abord été le ministre de la politique du quoi qu'il en coûte, aujourd'hui étrié par la Cour des comptes. Il est vrai, pour Bruno Le Maire, des obstacles de taille à l'horizon. La publication du déficit pour 2023, en mars, sans doute plus mauvais que prévu, et la possible dégradation de la note de la France par les agences au mois de mai.
La victoire ne faisait aucun doute, mais le score dépasse ce qu'on pouvait imaginer. Vladimir Poutine, réélu à la tête de la Russie, avec 87% des suffrages selon la commission électorale. Jamais les autorités russes n'avaient affiché de tels chiffres lors des précédentes présidentielles. Alors Poutine bombe le torse. Cela consolide la Russie, dit-il ce matin en prévenant « Peu importe qui veut nous intimider, nous écraser, cela ne fonctionnera pas ». Il assure aussi que son armée a entièrement l'initiative désormais en Ukraine. Vous l'entendrez dans le journal de 8h, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky le décrit lui comme un être ivre de pouvoir qui veut régner éternellement. Comme en novembre dernier, le plus grand hôpital de Gaza est à nouveau au cœur de la guerre. L'armée israélienne a annoncé dans la nuit y mener une opération ciblée contre des terroristes haut gradés du Hamas, tout en affirmant qu'elle intervient avec prudence dans cet hôpital Al-Shifa, que les patients n'ont pas besoin d'évacuer. Depuis, des échanges de tirs sont signalés. Le ministère de la Santé du Hamas parle même d'un bâtiment en feu suite à une frappe aérienne. Et il n'y a pas qu'à Gaza que les centres de santé et les soignants sont au cœur du conflit désormais. En Cisjordanie aussi, c'est le reportage à Jenin d'Alice Froussard.
Ça, ce sont des impacts de balles. Vous voyez ? Et là, il y a aussi des fragments.
C'est le capot d'une ambulance que ce Palestinien de Jenin, Hazem Massaroué, nous montre. Il la conduit à chaque raid à travers la ville à la recherche des blessés.
Dans mon travail, je ne regarde pas si je transporte un combattant ou un civil. Mon rôle, c'est juste de les sauver. Mais je n'ai pas d'armes, alors pourquoi est-ce qu'il me tire dessus ?
Depuis quelques mois, son travail est incroyablement compliqué, dangereux, explique-t-il. L'hôpital gouvernemental de Jenin, où nous le retrouvons, est d'habitude considéré comme un lieu sûr. Mais ici aussi, les choses ont changé depuis le 7 octobre, explique Kassem Abougoutna, un des médecins responsables des urgences.
L'hôpital, c'est le premier lieu en sortant du camp. Et on voit aussi de nombreuses familles qui viennent s'y réfugier dès qu'il y a l'armée. Mais maintenant, les tirs des soldats visent jusque dans la cour de l'hôpital. Et les ambulances n'arrivent pas non plus à entrer. Tout cela met la vie de nos patients en danger.
Alors le docteur a créé un atelier pour apprendre les gestes de premier secours à des habitants du camp. Il a formé des ingénieurs, des commerçants, même des adolescents.
Même s'ils ne peuvent pas emmener les blessés à l'hôpital, au moins on est content, car ça permet de sauver des vies.
Lors du dernier raid, un jeune a survécu grâce à ses soins, dit-il, alors qu'il était resté 6 heures avec une balle dans le bras, une autre dans l'abdomen, avant de pouvoir rejoindre l'hôpital. Jenin, Alice Froussard, France Inter.
En France, une pluie de mortiers, d'artifices et de projectiles contre le commissariat de la Courneuve en Seine-Saint-Denis hier soir. Il a été visé pendant une bonne heure par plusieurs dizaines d'individus. 4 jours après la mort d'un jeune originaire de la commune lors d'une course-poursuite avec la police, on comptait à minuit 6 interpellations. Un jeune homme d'une 20aine d'années tué par balle dans la soirée à Talent, près de Dijon. Il se trouvait devant un hall d'immeuble quand il a été pris pour cible par des tirs venant d'une voiture dans un secteur connu pour le trafic de drogue. C'est le deuxième homicide sur fond de trafic en 4 jours dans l'agglomération dijonnaise. Vous l'avez peut-être constaté, au pied de votre immeuble ou dans votre rue, les poubelles jaunes débordent. Ces bacs sont destinés au tri sélectif et depuis un peu plus d'un an, elles ne se limitent plus au papier et carton. On peut y jeter tous nos emballages alimentaires et notamment en plastique, les pots de yaourt, les barquettes de jambon. La filière recyclage doit donc s'adapter, mais problème, tous les centres de tri n'ont pas les moyens d'investir. Il faut donc construire des centres de surtri, comme celui qu'a visité Rémi Brancato en Bourgogne. Il reçoit les déchets plastiques des autres centres pour les traiter donc une seconde fois.
Les déchets plastiques sont empilés à l'entrée du centre.
Ces déchets, ce mélange de plastique rigide, arrivent en balle.
Ici, à Ruffey-les-Baunes, les centres de tri expédient 100 tonnes par jour. Geoffroy Séguda, directeur général de Bourgogne Recyclage, a créé cette toute nouvelle usine. Il opère un deuxième tri. Les déchets défilent sur le tapis, sous l'œil de 15 machines de tri optique.
Le faisceau lumineux détecte la matière. Et ensuite, on a des rampes par jet d'air qui vont éjecter la matière triée dans le bon compartiment. Plus on va avancer dans le process, et moins on aura de matières différentes dans le flux.
7 catégories de plastique sont séparées. Et en fin de parcours, Corinne et ses collègues finalisent.
Alors là, je suis en train de trier en fait toutes les matières transparentes pour que l'on puisse laisser effectivement sur le tapis que des choses effectivement de couleur.
Ce plastique est expédié chez un recycleur dédié. L'objectif, c'est de réemployer des matières qui ne l'étaient pas jusqu'ici, défend Geoffroy Séguda.
Le pot de yaourt est envoyé en recyclage dans une usine qui permet de refabriquer des pots de fleurs ou des cintres. Et demain, à partir d'un pot de yaourt, on pourra refabriquer un pot de yaourt. Il y a un vrai défi en matière de recyclage.
Car pour l'instant, en France, seul 14% du plastique fabriqué provient du recyclage et 3 déchets plastiques sur 4 ne sont pas collectés dans le bac jaune.
Rémi Brancato.
Il est 7h40, le PSG impressionne de nouveau en Ligue 1.
Grâce à un triplé de Mbappé hier soir, victoire 6-2 à Montpellier, Paris s'envole en tête du classement. En l'espace d'une saison, elle s'est fait un nom au sein de l'équipe de France de biathlon. Lou Jean Monod a remporté hier au Canada la dernière Mastart de l'hiver. Elle décroche au passage le petit globe de la spécialité au détriment de sa compatriote Julia Simon. C'est une autre forme de sport, ou en tout cas de performance. La plus grande raclette du monde, record battu hier par des habitants de Saint-Étienne. Fromage fondu, pommes de terre, charcuterie, 2200 participants ont répondu à l'appel d'un humoriste au parc des expositions de la ville. Et parmi eux, Mathilde Montagnon.
Dans la salle, l'ambiance est festive avec des convives qui chantent. Beaucoup sont déguisés, tyroliens, télétubbies, des sosies de Véronique et Davina ou encore Mario et Luigi. Mais en coulisses, c'est complexe, reconnaît Maxime Balouza de l'agence Coïncidence qui organise l'événement.
On a une tonne de pommes de terre, 620 kg de fromage, 350 kg de charcuterie et 2350 personnes à table au même moment en train de manger une raclette.
2236 précisément, selon l'huissier qui monte sur le podium pour valider le record. Les plateaux de fromage arrivent, accueillis par une Marseillaise. Corentin, fan de l'humoriste Chicandier, est venu de Strasbourg exprès.
On s'est dit, c'est exceptionnel ce qu'il a créé, là on est content d'être là. C'est incroyable, il a créé un repas de famille en une après-midi.
L'ambiance est forcément un peu chauvine. Mais ça ne déplaît pas à Marjorie de Cruzeil à côté d'Annecy, élue Miss Raclette le mois dernier à Chambéry. Cette spécialiste du fromage valide également le contenu de l'assiette.
Elle est très bonne dans une très belle ambiance.
Paris réussi, Chicandier envisage de refaire une raclette l'an prochain, avec cette fois-ci deux fois plus de couverts.
France Bleu Saint-Étienne-Loire pour ce reportage. Alors les Stéphanois champions de la raclette, va falloir que les Savoyards se réveillent. Hein. La réputation est en jeu.
Oui, merci Alexis Morel. À suivre, Yaël Gauze, Dominique Seux, Sonia De Villers.